Et nous allons demander à Frédéric Girard, à Monsieur Frédéric Girard, de prendre la suite avec un exposé qui est encore portant à la fois sur le bouddhisme, essentiellement sur le bouddhisme, mais à travers Kamono Chomei, c'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu aussi comme un grand écrivain et dont les notes de ma cabane de moine, le Rujoki, sont un des fleurons de l'histoire littéraire. Donc, Monsieur Frédéric Girard est chercheur à l'EFEO et a publié de nombreux ouvrages sur le bouddhisme. Merci donc de prendre la parole.
Non, c'est moi qui remercie Jacqueline Pigeot de cette présentation agréable et gentille. Et voilà, j'ai opté pour cette commémoration sur un sujet qu'en réalité j'avais commencé à aborder il y a maintenant 25 ans et qui à l'époque correspondait simplement à une intuition que j'ai eue. Et je ne pensais pas même à que cette année était une commémoration concernant Kamono Chomei lorsque j'ai trouvé en creusant le sujet par hasard qu'il y avait finalement peut-être des rapports historiques que l'on pouvait commencer à tisser entre Kamono Chomei et Dogen, au moins de manière indirecte. Et comme Bernard Franck commentait la première phrase du Hōjōki avec, me semble-t-il, beaucoup d'émotion, cette phrase que tout le monde connaît, je ne sais pas s'il faut la redire, Ikukawa no nagare wa taizu shite shikamo moto no mizu ni arazu, et etc. etc. Le courant de la rivière qui s'en va ne se tarit jamais sans pour autant que son eau soit la même. L'écume flottant dans les méandres s'évanouit et se forme de ci de là sans que l'on ait jamais vu qu'elle stagne pour longtemps. De même en est-il des humains et de leurs habitacles dans ce monde. Cette phrase fait l'objet de très nombreux commentaires et elle résonne comme une sorte de vérité universelle. Bernard Franck avait dans ses cours proposé présenté du moins à ses auditeurs les diverses interprétations que l'on pouvait faire de tous ces éléments de phrase qui, à vrai dire, sont tous plus complexes les uns que les autres, et que l'on prenne simplement ce shikamo, c'est un des termes les plus, c'est une des particules les plus vagues du japonais. Est-ce un intensif et plus encore, ou bien est-ce une particule contrastive, certes, mais finalement les deux significations peuvent très bien se combiner, mais chaque mot de ce Hōjōki fait vraiment couler beaucoup d'encre chez les interprètes, les linguistes, les littérateurs et les spécialistes de philosophie bouddhique. Pour ma part, je vais essayer de présenter, par ailleurs, Dogen n'est pas du tout un auteur inconnu pour Bernard Franck, puisque lorsque nous assistions à ses premiers cours, nous étions en présence de la révérende Mandala, qui venait d'achever sa thèse sur un des seuls ouvrages lisibles facilement de Dogen, le Gakudo Yojinshu. Et donc, il savait très bien diriger des travaux dans des domaines qui n'étaient pas toujours son domaine de prédilection. Ici, je voudrais simplement dire que concernant cette première phrase, je veux voir je crois discerner l'affirmation d'une identité et d'un continuum individuel, le courant, qui est exprimé de façon négative. Le taizu, donc il y a quelque chose, un continuum individuel, et il y a quelque chose qui est, il y a une quelque chose qui est, il y a une évanescence de toute substance dernière. Donc on peut ici, je crois voir, entrevoir la doctrine de la double vacuité qui était extrêmement courante à l'époque de Kamakura, la vacuité de l'individu et la vacuité des éléments constitutifs d'une individualité. C'est le Kamono Chomei, dans son Hōjōki, dans la version qui est reconnue comme étant la bonne, enfin, Daifuku, celle du Daifuku Zenji, elle comporte une première partie où il procède à un descriptif de tout ce qui est sujet à impermanence, qu'il regroupe sous les catégories de quatre éléments, et il assure que la cause en est, la cause des maux humains est le désir de possession qui sévit en particulier à la capitale. Donc il donne une liste de maux, de phénomènes naturels qui causent des maux à la société et aux individus, et il donne un exemple un exemple humain, celui du dictateur de l'époque qui était remarqué pour sa démesure, Taira no Kiyomori, qui a voulu littéralement tenir dans sa main la capitale puisqu'il a cherché à la transférer à Fukuhara en 1180. Donc tous ces phénomènes ont été qualifiés par lui de yo no fushigi, des choses qui passent l'imagination en ce monde. Et cette première partie du Hōjōki, la mieux connue, donne de Chomei l'image d'un esthétisme décadent et pessimiste, hein, du moins en partie. Il insiste en particulier sur le fait que les êtres humains obéissent sont soumis à des rapports de dépendance tels que ceux existants entre un maître et un serviteur ou un esclave. Le serviteur exécute des tâches en obéissant aux ordres du maître. Ils sont l'un et l'autre d'une certaine façon prisonniers et sont appelés les liens qui se sont tissés entre eux sont appelés tôt ou tard à se défaire. Mais la marque propre de Chomei est qu'il met en évidence la dépendance psychologique et affective entre ces personnes. Qui protège les autres à l'esprit pris dans des liens d'une affection bienveillante? Qui se conforme au monde se fait une douloureuse violence à lui-même. Qui ne s'y conforme pas passe pour fou. Quel endroit occuper et quel métier exercer pour offrir repos à son corps et paix à son esprit? Donc le monde de la capitale qu'il décrit est soumis au mujo, à l'impermanence, qui rend l'idée d'une inconsistance ontologique liée à la temporalité marquant la vie empirique de l'homme. Et au terme de son exposé, il n'y a aucune issue. Donc Chomei est un très brillant rhéteur, il possède la rhétorique vraiment d'une façon tout à fait remarquable, et cet exposé l'amène à la deuxième partie de son texte. Cette temporalité a un envers positif. L'absence de permanence permet la découverte de la nouveauté que peut procurer la jouissance de l'instant présent. Chomei ne s'en prive pas en s'adonnant à un mode de vie d'homme raffiné, ce qui fait de contemplation de la nature, de composition littéraire et musicale. Une fois sa démonstration faite à propos de tous les éléments sans qu'aucun y échappe, il passe à la description du domaine qui s'est ouvert à lui en faisant retrait du monde. En quittant la capitale, c'est-à-dire le monde, puisque chez lui les termes sont, semble-t-il, identiques, c'est le terme de Sekai, il approche et pénètre dans le supramondain, ce que vise tout bouddhiste. Bien sûr, on peut contester à Chomei d'être un véritable bouddhiste, mais je Provisoirement, je fais comme s'il l'était réellement pour essayer de comprendre la suite de son argumentation. Il nous dit qu'il se retire à Hino, au sud de Kyoto, dans une région qui est habituellement un refuge lors des guerres civiles, des cataclysmes, et qu'il a, il s'y rend parce que il a atteint l'âge, parce qu'il a, il atteint l'âge de 60 ans. Là, je pense que à l'époque, il avait seulement 54 ans, mais en réalité, il choisit le chiffre de 60 ans pour arrondir à l'unité supérieure, car 54 ans ou bien 63 ans, c'est la même chose. Si le moment est mûr, à 60 ans, sa vie est... a atteint une complétude telle qu'il peut se retirer complètement du monde. Et là, il fait de très longs développements dont je retiendrai un seul. Il assure en particulier qu'un beau paysage n'a pas de propriétaire. Les plus beaux paysages n'ayant pas de propriétaire, rien ne fait obstacle à ce que l'on s'en repaisse l'esprit. Et il a démontré par ailleurs que ce désir de possession excessif qui est la cause de toutes les souffrances du monde et de tous les vices qui sévissent à la capitale. Lui ne dépend de personne et ne demande à quiconque quoi que ce soit, si bien qu'il échappe à la servitude des liens de dépendance humaine. Il note que c'est sa tête qui donne des ordres à ses mains et à ses pieds et non pas lui-même qui commande à une autre personne d'agir. Qu'il soit physiquement dans un état de fatigue, ne joue pas sur son esprit qui reste indemne, tandis que si un serviteur ne travaille pas, le maître en souffrira. Chomei découvre l'autonomie de la personne dans l'intégrité de son existence. Et après cette découverte, si l'on veut, anthropologique et existentielle, il fait un développement sur la doctrine que le triple monde n'est rien d'autre que ce que l'esprit humain en fait, Sangha Yuishin. Expression lue par Chomei en décalque du Kambun, Sangai wa tada kokoro shitotsunari. Et je suis obligé de sauter, je pense, par manque de temps, bien que ce soit un peu... D'ailleurs, je n'ai pas de montre.
Vous avez encore 7 minutes.
Oh là oui, alors l'horloge du Collège de France n'est pas une... Donc il reprend cette expression dans le sens le plus habituel qu'elle a, à savoir que si l'homme sait se libérer de ses passions, à ce moment-là, il peut réaliser l'état de Bouddha, alors que s'il en est prisonnier, il tombe dans l'état d'être sensible, asservi. Autrement dit, il prend cette expression dans le sens le plus banal qu'elle a. Ici, concernant cette expression, on a trouvé assez récemment qu'on peut l'expliquer à l'aide d'un rituel de la lune qui a été composé par son ami Zenjaku, mais à la demande de Chomei. Comme l'ouvrage, le rituel n'a pas pu être achevé à sa mort, il a été utilisé en commémoration de la propre disparition de Kamono Chomei. Alors, il nous y dit, il importe de se fixer sur le disque lunaire de la pensée afin de se repentir des obstacles des fautes, si bien que même si la lune de la nature authentique reste cachée derrière les chaînes de montagne, le vent de l'enseignement au son parfait subsistera dans l'espace grandiose. Dans le grand rêve de l'inscience, on entendra de façon indistincte la profonde loi sublime qui prêche « Les trois mondes se réduisent à mon seul esprit qui est un. Il n'est aucune chose indépendamment de celui-ci. » Et un peu plus loin, « Dès lors, la rosée de toutes les fautes disparaît et la lune de l'esprit un est clair. » Ce rituel a été... ensuite, je Ce rituel a ensuite été réactivé, pratiqué par un Fujiwara, Kujo no Noriie, personnage de la haute noblesse, donc du côté des Kujo, et qui a eu une carrière ratée, si l'on veut aussi, n'ayant pas de descendance. Il s'est intéressé aux choses de la religion, s'est fait moine sous Myōe et est devenu le premier donateur laïque de Dongen. Il a pratiqué ce rituel qui est un apax dans le genre. Il n'y en a pas d'autres du même modèle. Il y a des rituels sur Fugen, Monju, etc. Mais sur la lune, il n'y en a pas. Il n'y a que celui-ci. Et il l'a pratiqué en 1238, c'est-à-dire alors qu'il fréquentait assidûment Dogen. Et on a des poèmes de lui qui sont manifestement sous l'influence de Dogen, par exemple. L'un s'intitule « Heijo Shin Zedo », c'est la pensée ordinaire qui est la voix. Il n'a pu être inspiré que par ce moine. Et on peut donc penser que ce rituel a pu exercer une certaine influence sur Dogen, qui, en effet, quelques années après le rite exécuté par Noriie, a composé deux sermons particulièrement fameux, Tsuki et Zenki, juste avant de faire retraite à Ichizen, donc littéralement la lune, mais c'est transcrit de façon telle qu'on peut l'interpréter comme étant opération totale. Et Zenki signifie opération totale. Ils ont été composés à quelques mois de distance. Tsu, c'est Subete, et Ki, c'est Kikai no Ki. Donc c'est un jeu de mots, mais c'est un c'est un des sermons les plus frappants de Dogen. Donc le Dogen lui-même est à la croisée de, si l'on veut, l'expression Sangha Yuishin utilisée par Chomei intervient à un moment de son récit où il précise les circonstances de son retrait du monde, c'est-à-dire de la capitale. Et Dogen compose un sermon du même titre, Sangha Yuishin, lorsqu'il s'est retiré de la capitale pour aller à Ichizen. C'est son premier sermon, donc qui sans doute est une explicitation de sa retraite. Alors, je suis pour couper court au temps, donc je suis obligé de faire seulement préciser que dans son interprétation de cette formule, Dogen considère que ce monde, Sangai, est une actualisation de la nature de Bouddha. Donc il n'y a pas de nature de Bouddha qui serait au-dessus de ce monde, et il n'y aurait pas un en-deçà de ce monde comme chez Kamono Chomei. Tout se réduit au pur phénoménal. Les trois mondes sont tels que ceux qui sont les voies. Donc, un aveugle ou un ignare voit aussi bien le monde comme actualisation de la nature de Bouddha qu'un être omniscient ou un savant. Donc c'est en somme sa conclusion. Des différences entre les deux personnages, évidemment, se profilent. L'un est Chomei, est un ermite pérégrinant isolé qui prétend détester le monde. Et Dogen organise une communauté monastique, que ce soit à Kyoto ou que ce soit à Echizen. Mais tous les deux, on garde une attitude de retrait du monde. Dogen a refusé une position de supérieur de temple à Kamakura. Et il, en effet, bien que de par sa naissance, il a pu approcher un grand nombre de hauts personnages, il illustre un type d'érémitisme qui est distinct de celui de Chomei. Voilà, j'arrête ici mon exposé.
Excusez-moi de vous avoir rappelé que le temps coulait toujours et qu'on ne pouvait pas le figer pour vous écouter plus abondamment. Ah oui, si vous...
この度賀茂著名と道元を主題にしたのは両方とも鎌倉時代初期の隠遁思想を表している人物であるからであります。それでその隠遁思想の悟し踏みというか一番よく使われている言葉は三害有一心あるいは三害有一心という言い回しがその両方ともの場合に出てくるわけです。しかし長命の場合には一番当時一番普通に解釈された仕方に従って片方は一心があって仏心と衆生という三次元の思想構造がありながら一心に基づいて一心が共通なものであって一心が悟れば成仏ができててそれで迷えば修行にの方へ行くという思想のパターンをに従っているわけです。道元は当時の思想を知っていても禅宗の影響もあったので禅宗の場合には例えば見識即是見性という言い方が馬祖ドイツという言い方がありますけれどもものを見れば自分の仏心自分の仏性を悟ることが できるという考え方に基づいているわけです。ただし中国の臨済宗とは違って例えば目のよく見えない人は空芸を想像するときにはそれが愚痴愚かなものが悟ることはできないのに悟りということを概念で想像するだけでそれで成仏ができないという臨済の思想を反対に逆の視点に従って道元は無差別的に無分別的にどんな凡夫でもどんな聖人でも同じくこの世の現象しかないので両方とも仏性の働き場として仏性が見られるという無分別的な見方を、その三害有一心という諸法眼蔵の巻ではよく説明しているわけです。両方とほぼ同時代のもので道元はやはり若い時に北条鎌倉の住んでいたところからたったの4キロ ni ta kotomo atari. それで鴨の町名も北条記を書いたときに、おそらく道元の王子にあたる源道親の騒動記に謀するという文章を見て、やはり関係があったんじゃないかと思われるわけです。で、それをよく証明しているものとしては、最近の今村美恵子というの研究で、その月の公式が鴨の町名が注文した調査で、それでそれがおそらく若い時か、あるいは中年の道元が知り得たので、その諸坊元像の巻の中に共通なテーマが使われているんです。その中に月とか前期、それから国とか、そういうそういう諸坊元像の巻はおそらくその影響で書かれたと思われます。
Merci beaucoup.